La méditation proposée est Dieu, est de Bossuet, d'évêque Bossuet. Pour la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Moi, je te le dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, j'établis mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Jésus-Christ sait que la foi qu'on a en lui est le fondement de son église. Il inspire donc à Pierre une foi digne d'être le fondement de cet admirable édifice. De quel édifice s'agit-il? Il sera le fondement de l'Église. Et la foi, qu'est-ce qu'elle proclame? Vous êtes le Messie, le Fils de Dieu vivant. Par cette haute prédication de la foi, il s'attire l'inviolable promesse qui fait le fondement de l'Église tout entière. La parole de Jésus-Christ qui, de rien, fait ce qu'il lui plaît, donne cette force-là à un mortel. Alors qu'on ne dise pas, qu'on ne pense pas que ce ministère de Saint-Pierre finissent avec le Christ et à son ascension. Il va jusqu'à la fin. Qu'on ne dise pas que ce ministère pétrinien se termine avec Jésus. Ce qui doit servir de soutien à une église éternelle ne peut jamais avoir de fin. Pierre vivra dans ses successeurs. Pierre parlera toujours dans sa chair d'infaillibilité. C'est ce que disent les pères, c'est ce que confirment 630 évêques du Concile de Chalcédoine. Jésus-Christ ne parle pas sans effet. Pierre portera partout avec lui, dans cette haute prédication de la foi, le fondement de toute l'Église et du corps mystique de l'Église tout entière, jusqu'à la fin. C'est à Pierre qu'il est donné premièrement d'aimer plus que tous les autres apôtres. Et ensuite, de paître et gouverner tout, les agneaux comme les brebis, et les petits comme les mères, et les pasteurs eux-mêmes, et les pasteurs à l'égard des peuples, et les brebis à l'égard de Pierre, ils honoreront en lui Jésus le Messie, le Fils de Dieu vivant. Ils sont morts tous les deux, martyrs, hein, bien sûr, ça, c'est pour ça que éclatant de vermeil. Hein. Ils sont morts tous les deux en l'an 68e année de notre ère. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 36 ans à peu près, quelque chose comme ça. Après Jésus. Jésus est mort à l'âge de 36 ans, tu sais ça. D'après le calendrier, il est né en moins 5 avant Jésus-Christ. Et il est mort le 14 du mois de Nisan, de l'an 30. Donc c'est à l'âge de 36 ans. Historiquement, ça, on en est sûr de ça. Et il faut rajouter donc, c'est très facile de se rappeler, quoi, que c'est 36 ans plus tard que Saint-Pierre et Saint-Paul sont morts martyrs. Non, 67, 68. Pourquoi? Pour marquer que justement, Saint-Pierre a été fondé sur. Le martyr de Saint-Pierre a été fondé sur la compassion de Jésus, de son union hypostatique déchirée depuis le départ, jusqu'à sa condamnation. Et Saint-Paul, lui, Et donc il est un peu le témoin de la personne divine de Dieu dans le serviteur souffrant. Et Saint Paul, lui, peu de temps après, va être fondé sur l'agneau, le fait que le Dieu vivant reste agneau de Dieu dans le corps de son Église. Et c'est lui qui le fonde comme apôtre, tombe de son cheval, qui est le cheval du zèle de l'Ancien Testament, le zèle de la Torah, a aveuglé la sainteté de l'Église primordiale et de l'Église ancienne. Voilà les deux yeux, il tombe, et il devient l'apôtre, il est consacré apôtre. Il va comprendre que l'immolation du Dieu vivant se réalise dans l'Eucharistie. Celui qui ne discerne pas ça dans le corps est impropre pour le royaume de Dieu. C'est Jésus crucifié et glorifié dans l'hostie qui va, au fond, l'assumer, quoi, parce qu'il serait quand même, faut voir quand même qu'il a été formé. Hein. Saint-Pierre a été formé par Jésus, mais Saint-Paul aussi a été formé par Jésus. Pas seulement quand il est tombé de son cheval, mais il a été formé, emporté au premier ciel, emporté au deuxième ciel, emporté au cinquième ciel. Et il a reçu, au fond, tous les éléments extraordinaires de la doctrine jusqu'à la fin. Et de la bouche du Messie, celui qui l'avait persécuté. Voilà, c'est les deux fondements, parce que l'Église, elle est fondée sur les deux apôtres, parce que l'Église qui est fondée sur eux, sur le Christ lui-même, comme sur le corps mystique vivant, Jésus vivant lui-même, les deux, l'alpha et l'oméga de Dieu vivant, de la divinité de Jésus. Dans la chair de son union apostatique déchirée, et dans la chair de son union apostatique déchirée, dans la transverbération du corps mystique vivant et entier de l'Église entière jusqu'à la fin, sont bien les deux colonnes de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs que ils ont été martyrisés, il y a une symétrie extraordinaire. Donc, à l'âge de 36 ans, Jésus mort sous la croix. Non, c'est pas 33, c'est... 33 c'est symbolique, quand on dit 33, c'est un chiffre symbolique. Et puis 36 ans, pour Saint-Pierre et Saint-Paul, alors évidemment, on a l'évangile qui nous indique, hein, qui nous indique quand même une chose, c'est que Jésus a institué son Église solennellement à l'intérieur de sa divinité. Et c'est pour ça qu'elle demeure jusqu'à la fin. Et que c'est la divinité du Fils vivant de Dieu qui fait l'Église. Et les deux mains font l'Église. C'est son union apostatique déchirée, quoi, c'est ça. C'est l'étoile du matin. Et le glaive à double tranchant. Dans une sacrée cœur. Et l'aspiration du Saint-Esprit qui s'inscrivent dans la chair et l'acte de l'infaillibilité, de la perpétuité de son Église. Les puissances de l'enfer ne pourront jamais atteindre ça. Jamais l'Église, jamais. Dans le Saint-Père, jamais le démon ne pourra atteindre ces deux fécondités-là, cette fécondité mariale de l'étoile du matin. Et puis l'Esprit Saint, qui est l'actuation, qui est l'acte créé éternel de toutes les fécondités, pétriniennes, de toutes les fécondités de la pierre en clair. Mita pétrinien, tu n'en pourras jamais enlever ça. Une fécondité extraordinaire du point de vue de l'émanation du Saint-Esprit à partir du mystère de l'Immaculée Conception. Un ajustement parfait, sans voile, sans aucun voile, entre la vie divine de Dieu, le vivant de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu le Fils. Et ces deux fécondités-là, elles appartiennent à Dieu le Fils, elles sont immuables. Et comme elles sont inscrites à l'intérieur du corps, les membres vivants sont ex-vivants, il faut bien qu'il y ait une unité, parce que l'union hypostatique de Jésus est une unité indissoluble. Et donc l'unité du corps mystique dans cette infaillibilité, dans cette perpétuité, dans cette fécondité jusqu'à la fin, elle ne peut pas être atteinte par le démon et les puissances de l'enfer. On peut inverser les valeurs, on peut calomnier, on peut faire le péché contre le Saint-Esprit, qui consiste à dire l'Esprit Saint qui est dans le Saint-Père, c'est Belzéboul. Ce qui vient, ce qui sort du ministère pétrinien, c'est-à-dire c'est Belzéboul. Et là, il faut faire très attention. Parce que quand l'Esprit Saint et l'Immaculé produisent la construction de l'Église entière vers la fin, vers son accomplissement dans la sainteté de l'Israël véritable de Dieu, qui est dans la main du Saint-Père, dans le cœur du Saint-Père. Il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas dire que ça vient du démon. Parce que simplement, ça revient à dire que l'Esprit Saint est le démon. Et ça, il faut faire très attention à ceux qui disent des choses comme ça, de manière un petit peu... C'est plus que présomptueux, quoi. De décider si l'Esprit Saint... C'est l'esprit de Lucifer, ou l'Esprit Saint qui, de la fécondité profonde, permanente, quoi qu'il arrive, du Fils de Dieu, du Dieu le Fils dans son corps. Ce qui émane de ça, c'est démoniaque, c'est Belzéboul. Il faut faire très attention de ne pas dire une chose pareille. Il vaut mieux dire qu'on n'y comprend rien. C'est mieux. Vaut mieux dire que nous sommes nous-mêmes sous le joug des puissances des ténèbres et de ses inspirations pour ne pas voir ou voir exactement le contraire de ce qui est. Mais heureux les cœurs purs, le royaume des béatitudes. Si on a la pureté de la foi, si on a la pureté de la transverbération, si on a la pureté de la Pentecôte, de l'Immaculée Conception dans les noces de l'agneau, on ne peut pas ne pas voir que la royauté pontificale et immaculée de l'Église, elle ne cesse de s'avancer souverainement vers son épanouissement final, invincible, à tel point que la terre va s'ouvrir pour engloutir toutes les forces contraires. Les puissances de l'enfer, non seulement elles prévaudront pas, mais en plus, elles vont s'engloutir elles-mêmes dans le feu de leur colère. Voilà, alors, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose dans cette solennité qui, pour nous, est, pour l'Église, a toujours été importante, parce que la grande fécondité de cette infaillibilité, c'est que Jésus, prêtre et victime, sera toujours donné. Jésus, prêtre et victime, sera toujours donné dans le miracle des trois éléments à l'intérieur des plus grands soubresauts de l'histoire, des plus grandes persécutions. L'Eucharistie, oui, le corps mystique vivant, Jésus vivant, mais c'est vrai, Mais ça, c'est l'étoile. Le soleil eucharistique, Sacré-Cœur de Jésus, Marie-Joseph. Mais aussi le sacerdoce, l'offrande victimale, sacerdotale dans le miracle des trois éléments. Il fait le miracle du glaive à double tranchant de l'Apocalypse. Ça, c'est ça. Quand ces deux colonnes s'entrouvent devant nos yeux, qu'on s'engloutit dans cette projection dans laquelle nous entraîne la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Ils nous engloutissent dans l'au-delà de l'unité des deux, et donc dans une fécondité sacerdotale, victimale, dans le miracle des trois éléments. Parce que ce qui caractérise quand même les apôtres, c'est que ils avaient les yeux fixés sur la fin, et leur fécondité était par rapport à la fin. Il faut voir les épîtres de Saint-Pierre. Et la fin des noces de l'agneau, au sixième sceau de l'Apocalypse, leurs yeux sont fixés sur le sixième sceau de l'Apocalypse. Saint-Pierre comme Saint-Paul. Dans les épîtres, on le voit. Ils sont fixés sur la divinité du Fils de Dieu vivant dans le corps mystique de l'Église. Et ils ont le fixé en même temps sur le sixième sceau de l'Apocalypse, les noces de l'agneau, sixième sceau, miracle des trois éléments, cette tempête finale qui doit éradiquer tout ce qui vient sans exception du fruit des opérations des puissances de ténèbres dans la matière, dans le temps, dans l'éternité, dans l'univers entier. Et en plus avec une miséricorde sans limite et sans fin, inconditionnelle. Un amour inconditionnel, sans limite et sans fin. Tout ce que tu vas fermer, sceller sur la terre, sera scellé dans les cieux. Tout ce qui sera ouvert partout sur la terre, ça ouvert dans le ciel. C'est magnifique. C'est magnifique. Et au moment où il faut, et à l'heure où il faut, et quand l'Esprit Saint manifeste que c'est maintenant qu'il convient que cela se fasse, parce qu'on doit honorer toutes les colonnes de l'Église, l'Immaculée Conception, la paternité et le secret de l'Apocalypse dans le Père. On doit honorer tous les mystères, les uns après les autres, dans l'ordre dans lequel ils ont été conférés par la hiérarchie, par la révélation et par l'inspiration brûlante du Saint-Esprit. Et rien ne se fait si ce n'est pour accueillir quelque part l'épanouissement du sixième sceau de l'Apocalypse, en respectant toutes les colonnes de l'Église. C'est-à-dire tous les mystères, le mystère de la très sainte Trinité, le mystère de la vérité, le mystère de la divinité, le mystère de la conception immaculée agréée, le mystère de l'étoile du matin, le mystère aussi, bien sûr, de l'aisselle de Jacob, du corps mystique vivant de Jésus vivant entier, et de la construction de la Jérusalem glorieuse qui glorifie le sacré du Père après la résurrection finale de toutes choses. Le mystère des cinq mystères glorieux du monde nouveau, dans lequel se déploient toutes les vertus glorieuses de la paternité agréée de Dieu, dans la pierre angulaire. La divinisation finale est accomplie de tout. C'est le seul but du Saint-Père, c'est le seul but du Saint-Père. Et s'il faut renverser quelques pierres qui sont imbibées de ténèbres, il faut qu'il les renverse. S'il faut renverser quelques pierres imbibées d'illusions, d'illusions de l'avarice, de la générosité chrétienne, il faut qu'il les renverse. Il le faut, c'est très nécessaire. Et il le fera pour autant que cet esprit lui donnera la force de le faire, d'être fidèle à ce qu'il a, afin à la face dans l'aurore précisément, l'Immaculée Conception, qui doit se répandre ses effluves extraordinaires. Dans le secret de la paternité de Dieu, qui est vraiment la colonne de l'Apocalypse, comme dit saint Hildegarde. Alors c'est pour ça, le sacerdoce victimal, dans le miracle des trois éléments, c'est la fleur, j'allais dire, du mystère, du sixième psaume de l'Apocalypse, dans le mystère, dans les noces de l'agneau. Et c'est là, je pense, que va s'évanouir le mystère de Saint-Pierre, le mystère de la pierre angulaire qui, là, elle va s'évanouir, elle va se fondre, j'allais dire, dans le mystère des noces de l'agneau. Le sacerdoce va se fondre, le sacerdoce éternel de Jésus, assis à la droite du Père, va se fondre dans le mystère de l'agneau, dans un chemin de croix descendant et glorieux. De même pour cette espèce d'ascension extraordinaire de l'infaillibilité de la doctrine du Saint-Esprit, de l'Immaculée Conception dans le secret de la colonne de l'Apocalypse. On va dans le miracle des trois éléments, c'est-à-dire s'engloutir dans le mystère des noces de l'agneau, parce que le prêtre est victime. Pourquoi ? Parce que le prêtre est la victime dans le miracle des trois éléments, dans le dépassement de l'unité des trois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh bien, c'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils, le vivant. Le Dieu vivant qui s'immole, qui disparaît, qui s'engloutit, qui s'efface dans ce secret de la paternité incréée de Dieu dans le ciel et dans la terre. Et donc il explique l'aspect victimal de la sponsalité. Et avec l'aspect victimal de la sponsalité, les deux colonnes de l'Église ont trouvé leur accomplissement, quoi, on peut dire. C'est ça la goutte de sang. Alors, ce jour-là, on a envie que l'intention de la messe dans le monde entier, 1 million de messes sont célébrées en principe. En une seule messe, un jour solennel, c'est une seule messe en 1 million de fois. Qu'elle descende et qu'elle soit célébrée à l'intérieur de l'âme de ces 200 milliards d'enfants avortés, qui doivent ouvrir précisément le champ de la signification, de l'intrépidité sanglante et immaculée de Pierre, infaillible de Jésus. Et qu'on puisse plonger ces 200 milliards d'enfants, avec leur corps vivant dans leur mère, dans le Saint Calice de la paternité et du secret de l'Apocalypse. On va les plonger tous dans le précieux sang, dans leur conception. Et donner, proposer une messe pour l'absolution et la miséricorde pour tous les enfants de la terre. Tous ces enfants-là, en tout cas ceux qui sont blottis dans les parfums de l'autel, au rideau du temple. Du temple. Qui est le corps vivant du Dieu vivant. Et il faut qu'on baptise l'instant qui a suivi leur conception, pour qu'ils soient plongés dans l'absolution, dans le précieux sang, et que ce baptême d'absolution soit un baptême eucharistique, et que ce qui est absous sur la terre soit absous. Ce qui est délié sur la terre délie le monde des cieux, c'est-à-dire le miracle des trois éléments qui doit surgir au milieu de nous, dans le sacerdoce victimal. C'est là l'intention d'une messe comme aujourd'hui. Il faudrait saisir cette intention. Chacun a été conçu par Dieu. Chacun a été mis devant la propagation du péché originel. Chacun a librement établi, de poser son regard sur le péché originel ou de s'en détourner, de quelque manière que ce soit, de toute façon. Chacun a pu laisser pénétrer l'inversion, ne serait-ce que, même si c'est petitement, ça envahit tout le territoire. Même si c'est minuscule, ça envahit tout le territoire. Mais c'est un simple toucher, comme je crois ça a été pour Saint-Joseph. Ça a ébranlé toute l'enveloppe de l'âme, de l'amour, de la lumière, et de la liberté dans l'ordre du temps. Et donc il faut, bien sûr, qu'il y ait une absolution. Et Jésus a donné ce pouvoir d'absolution à Saint-Pierre, enfin aux apôtres, Saint-Pierre et Saint-Paul, qui ont mêlé leur sang pour que cette absolution soit effective, jusque dans le sixième saut de l'Apocalypse. 36 et 36, ça fait 72, c'est pour ça que nous disons que Marie a connu son Assomption. À 72 ans, il y a une complémentarité entre les deux. Et lorsque les deux sont conjoints, alors à ce moment-là, l'Immaculée Conception peut donner sa Pentecôte. Et lorsque on doit célébrer la messe, je pense qu'on doit célébrer la messe pour ça, au moment de la consécration, ben, je sais pas, je proposerai assez facilement cet exercice admirable de l'Esprit Saint. Esprit de sagesse, de la croix, esprit de piété, d'amour pour le Père, esprit de science de mon péché, esprit pur de voir la divinité divine de Dieu dans son corps mystique vivant, s'offrir ce jour-là où je le fais. Et lorsque le calice présente comme ça, consacrant le précieux sang de manière brûlante, je plonge ma conception et les instants qui ont suivi dans le précieux sang, pour que ce baptême de sang eucharistique et de feu me fasse pénétrer, j'allais dire, dans l'absolution de mon péché originel et du péché originel de tous les hommes avec lesquels, absolution, je viens visiter comme une semence, comme pour ensemencer le champ de toutes les conceptions d'Adam, de tous les hommes, de ceux qui existaient, ceux qui existent, ceux qui existeront jusqu'à la fin, et passer de l'un à l'autre sans en accepter aucun. C'est ça le ministère d'absolution de Pierre. La miséricorde doit être mise partout. Et tout le monde est invité à être, j'allais dire, une seule lumière vivante et incarnée avec l'Immaculée Conception. Tout le monde est invité. En tout cas, nous allons consacrer dans ces derniers jours, finalement, du mois du Sacré-Cœur de Jésus, toutes les âmes de ceux qui ne peuvent pas le faire, et donc qui sont victimes, donc qui sont dans notre cœur sacerdotal, ils ont de quoi rebondir du dedans de notre cœur sacerdotal, le cœur sacerdotal du Christ, pour être plongé, et se laisser plonger, mais pour être plongé dans la viridité surnaturelle qu'aussi a créée l'Église, dans le calice, dans le précieux sang. Nous les plongeons dans cette messe. Nous plongeons notre propre conception avec les jours qui ont suivi pour être absous et pour pouvoir, pour qu'il y ait à l'intérieur de l'humanité d'aujourd'hui des espaces qui ouvrent la porte à la Pentecôte de l'Immaculée Conception dans toutes les conceptions, ne serait-ce que pendant une demi-heure. Nous le disons, nous le redisons encore, c'est ça la vocation du nouvel Israël de Dieu, du véritable Israël de Dieu au milieu des multitudes, c'est ça. À côté du pontife, il y a le roi, et à côté du roi, il y a la femme. Et les trois ne font qu'un. Trois en un endroit. Je crois que c'est facile à comprendre. Et c'est facile à faire. Ah, faut le faire en oraison. C'est pas une dévotion. Parce qu'il y a eu un message, il n'y a eu aucun message là-dessus. Il n'y a eu aucun message. C'est ça qui me réconforte. Aucun message. Aucun message. Non. C'est les Olympides liquéfiantes. merveilleuse de l'infaillibilité du Saint-Père dans le cœur eucharistique du Christ, se déployant dans la porte-côte de l'Immaculée Conception, qui nous font pénétrer irrésistiblement dans cette vision, dans cette nécessité d'y pénétrer, d'être englouti, plongé, merveilleusement assumé, jusqu'à rentrer dans l'humilité parfaite que ça peut représenter surnaturellement, et dans le monde incréé, dans l'effacement des personnes divines, à l'intérieur de la seconde procession incréée, cette seconde procession incréée, l'accueil du paraclet, puisse être autorisé à s'accomplir dans le temps de l'Église, et en tout cas dans notre temps à nous, par anticipation, par appropriation et par puissance. Voilà le sujet de nos entretiens avec Dieu aujourd'hui. Credo et non longue.